Bonjour, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs.
Alors, je vais rapidement présenter le laboratoire.
Le micro. Je vais vous présenter rapidement le laboratoire. Donc, l'ABO est un groupement d'intérêt public qui a fusionné trois laboratoires départementaux du Calvados, de l'Orne et de la Manche. Alors, l'ABO travaille sur la thématique des surmortalités des huîtres depuis 2008, suite à une demande du CRC Normandie et Mer du Nord. Et à l'époque, justement, ils sont venus nous voir en disant qu'ils avaient des gros soucis de mortalité sur les estrons normands et ils demandaient justement si on pouvait les aider à comprendre ce phénomène. Donc, au laboratoire, j'ai réalisé, moi, mon doctorat sur la connaissance des virus humains dans les coquillages. Donc, on avait le savoir-faire pour pouvoir extraire des pathogènes dans cette matrice qui est qui est l'huître. Donc, on a accepté, donc, de pouvoir réaliser des recherches sur ce mollusque. Et surtout, ce qu'on a prioritairement mis en avant, c'est notre savoir-faire sur la mise au point de techniques rapides pour la détection de pathogènes. Donc on a rapidement mis au point des techniques pour détecter différents pathogènes comme les vibrio, mais on a surtout axé notre développement d'analyse sur la recherche du virus herpétique de l'huître, OSHV1, et on a mis au point une technique rapide pour pouvoir le détecter et qui puisse être utilisé en autocontrôle. Donc là, c'est vraiment donc les travaux qu'on a réalisés entre 2008 et 2010 sur les problèmes de mortalité sur les naissances d'huîtres. Aujourd'hui, je vais surtout faire mon exposé sur les mortalités des huîtres adultes. Donc, dès 2011, on a eu donc, parce que nous, on est un laboratoire qui réalise beaucoup d'analyses de routine, mais on a aussi un axe très recherche. Et donc, les ostréiculteurs nous ont amené en 2011 des animaux adultes qui subissaient des mortalités. Et la première chose qu'on a fait dessus, à leur demande, c'est donc de réaliser une recherche d'OSHV1. Et dans ces animaux adultes, on n'a pas du tout retrouvé la présence du virus. Par contre, on a retrouvé en forte quantité la détection du Vibrio estuarinus, qui est une bactérie. Comme on avait la chance depuis 2008 d'avoir cumulé quand même de nombreux échantillons, on s'est dit qu'on allait rechercher tous ces échantillons et qu'on allait observer si dans ces échantillons on avait déjà ou pas la présence de cette bactérie. Donc sur cet histogramme, je vous représente justement toutes les analyses que nous avons réalisées au laboratoire depuis 2008 jusqu'à décembre 2014. Ça représente 2331 échantillons. Et donc, dans tous ces échantillons, on a fait rétrospectivement des analyses pour voir si dans ces échantillons, on avait la présence ou pas de cette bactérie. Donc, en ordonnée, il y a donc le nombre d'analyses et en abscisse, les mois. Et donc, vous pouvez observer que les petits bâtonnets représentent tout simplement le nombre d'échantillons qu'on a obtenus dans un mois. Et lorsque c'est en violet, ça veut dire que dans ces échantillons, on n'a pas retrouvé de la bactérie. La bactérie n'était pas présente dans ces échantillons. Par contre, lorsque vous avez les tout petits bâtonnets jaunes, ça montre que dans ces échantillons, il y avait bien la présence de cette bactérie. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'en 2009 et en 2010, la bactérie, on l'a retrouvée, mais de façon saisonnière. C'est-à-dire, on l'a retrouvée du mois de mai jusqu'au mois de novembre. Et en petite quantité, parce que vous voyez, les petits bateaux jaunes sont quand même en petite quantité. À partir de 2011, on a augmenté le pas de temps de la présence de la bactérie dans les individus qu'on analysait. Et dès le mois d'avril, on pouvait observer la présence de la bactérie jusqu'au mois de décembre. Et à partir de 2012, on considère qu'il n'y a plus vraiment de saisonnalité de la bactérie. On la retrouve systématiquement. Alors, ça peut être moins au mois de février, un peu plus au mois. Mais systématiquement, on retrouve la bactérie dans les échantillons. Donc, on s'est intéressé. On s'est dit, bon, maintenant, on va essayer de comprendre, parce que ça, c'est tout échantillon confondu, aussi bien les naissins, les huîtres adultes que les juvéniles. On a essayé de voir un petit peu dans quels individus on retrouvait cette bactérie. Et on a dispatché avant 2011 et après 2011. Donc, avant 2011, on a analysé 717 échantillons, et dans les 517 échantillons, et dans les 517 échantillons, on a retrouvé 39 fois la bactérie. Ça représentait un pourcentage de 7,5%. C'est pas énorme. Donc là, dans ce petit camembert, j'ai représenté, on s'est intéressé justement dans ces 39 échantillons qui contenaient cette bactérie, on s'est intéressé de savoir est-ce qu'on a retrouvé cette bactérie en période de mortalité ou hors période de mortalité. Donc, sur ce camembert, vous observez en bleu, c'est tout simplement les échantillons qui ont été analysés au laboratoire hors période de mortalité. Donc, on considère que les échantillons étaient sains. Et les deux portions de camembert jaune et bordeaux, ce sont des animaux qui ont été analysés en période de mortalité. Et en jaune, surtout quand l'animal arrivait au laboratoire et était déjà moribond. Donc là, on considère vraiment animal mort. Donc, la première chose qu'on peut observer sur ce camembert, c'est qu'avant 2011, quand on détectait la bactérie, on l'a détectée surtout dans des animaux qui ne subissaient pas des mortalités, donc hors période de mortalité. Après, on s'est intéressé de voir dans ces animaux si la proportion, est-ce qu'on retrouvait la bactérie plus souvent dans des animaux, dans les juvéniles, dans les naissins ou dans les adultes. Donc là, dans ce camembert, alors malheureusement, ça n'apparaît pas en bleu, je crois pas.
Sans blanc.
Alors, ok. Alors, sur ce camembert, en blanc, ça représente le pourcentage de... ce sont les naissins. En bordeaux, ce sont les juvéniles. Et en jaune, les animaux adultes. Donc là, on se rend compte qu'avant 2011, on retrouvait le plus souvent la bactérie dans des animaux, dans les naissins, et très rarement dans les animaux adultes. Comme on est sur un tout petit échantillonnage, on est seulement sur 39 échantillons, le 6% représente quelque chose d'infime. Et là, on observe qu'avant 2011, on a détecté que deux fois la bactérie dans des animaux adultes, et il s'agissait d'huîtres de captage. On a réalisé la même chose en prenant les échantillons analysés au laboratoire entre janvier 2011 et décembre 2014. Là, ça représente un peu plus d'échantillons, ça fait 1814 échantillons. Et là, pareil, dans ces 1814 échantillons, on a retrouvé la bactérie que dans 125 échantillons. Ça représente le même pourcentage, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 7% de présence de la bactérie dans les échantillons. Donc là, le pourcentage de présence de la bactérie n'a pas évolué malgré l'échantillonnage qui a augmenté. Donc la même chose, on a essayé de voir à partir de 2011 quel était l'état sanitaire des animaux lorsqu'on détectait la bactérie. Et donc là, en bleu, c'est hors période de mortalité. Et vous pouvez voir que les portions jaunes et bordeaux ont vraiment augmenté. Et donc là, maintenant, on est à partir de 2011 sur une présence plus importante de la bactérie en période de mortalité. On est à 64%, alors qu'avant, on était seulement à 20%. Là, on a refait la même chose. On a essayé de voir, quand on retrouve la bactérie, est-ce qu'on la retrouve dans des animaux juvéniles ou dans des naissins? Et là, on voit toujours que majoritairement, on retrouve quand même la bactérie dans les naissins. On est à 53%. Mais on voit nettement qu'il y a une augmentation de la présence de la bactérie dans les animaux adultes. On est passé maintenant à 44%, enfin depuis 2011 à 44%, alors qu'avant il y avait seulement dans 6% des animaux adultes où la bactérie était présente. Là, quand on avait un échantillonnage qui était plus important, on a essayé de voir dans ces animaux, donc ce qui est en jaune, essayer de voir justement ces animaux adultes avec la présence de la bactérie, dans quel état sanitaire ils étaient. Est-ce qu'ils subissaient des mortalités ou est-ce qu'on les avait obtenus hors période de mortalité. Donc là, sur ce camembert, et on représentait en bleu les animaux, des animaux analysés hors période de mortalité, donc quand tout va bien. Et en blanc et en bordeaux, c'est par contre lorsque les animaux sont arrivés au laboratoire en période de mortalité. Donc là, on voit qu'il y a quand même un fort pourcentage de présence de la bactérie dans les animaux adultes en période de mortalité. On est à 83%. Donc là, on s'est intéressé, on s'est dit, comme on a un effectif quand même assez intéressant, on va essayer de voir si dans ces animaux adultes, est-ce qu'on peut les scinder en animaux provenant de captage ou animaux provenant d'écloserie initialement. Donc ça, c'est sur des faits d'observation et sur des déclarations d'ostréiculteurs. On n'a pas pu vérifier si en effet, quand on nous disait que c'était un triploïde, est-ce que c'était un vrai triploïde. Donc dans les animaux de captage, donc on remarque que c'est 50-50. On a obtenu la présence de la bactérie dans 50% des animaux en période de mortalité et hors période de mortalité. Et en période de mortalité, on observe que dans 28% des cas, les animaux subissent des mortalités. On a fait la même chose avec les animaux provenant d'écloseries. Donc là, on voit qu'on a quand même que dans 19% des cas, présence de la bactérie hors période de mortalité. Par contre, on détecte beaucoup plus la bactérie en période de mortalité. Et surtout, on observe que dans 65% des cas, les animaux meurent. Là, juste pour pouvoir renseigner un petit peu plus, parce que là, on a fait vraiment que sur les animaux d'écloserie, parce qu'on n'avait pas systématiquement la ploïdie des individus, on ne savait pas si c'était des diploïdes ou des triploïdes, mais quand on avait l'information, on a refait les calculs, et donc dans les 65% des cas des animaux subissant des mortalités d'animaux d'écloserie, et dans ce cas-là, il y avait 83% d'animaux qui étaient triploïdes. Ce qui n'est pas étonnant, parce que dans les animaux d'écloserie, il y a plus souvent d'animaux triploïdes que de diploïdes. Donc, en conclusion rapide sur cette première manip, donc on a montré que la bactérie n'était pas plus souvent détectée après qu'avant 2011. Après sa présence est constante, aux alentours de 7%. On a montré que la bactérie était plus souvent détectée en cas de en présence de mortalité à partir de 2011, 64% contre 20%. Que la bactérie était plus souvent rencontrée dans les animaux adultes à partir de 2011, 44% contre 6%. Et que surtout que le taux de mortalité était plus important après 2011 dans les animaux provenant d'écloseries, par rapport aux animaux provenant de captage naturel, 65% contre 28%. Donc, pour expliquer ce phénomène de cette bactérie, enfin de ce phénomène de mortalité dû à la bactérie Vibrio cyanus, il y a deux hypothèses possibles. Soit que la bactérie est devenue plus virulente, qu'il y a une apparition de nouvelles souches, soit la deuxième hypothèse, c'est que les huîtres sont devenues plus sensibles. Donc, la première hypothèse a été écartée par Ifremer, parce qu'ils ont travaillé sur cette bactérie. Ils ont montré que cette bactérie n'était pas devenue plus virulente au fil des années et qu'on était toujours en présence de la même souche, de la même virulence de cette bactérie. Pour pouvoir répondre à savoir si ces animaux sont devenus plus sensibles, et notamment les animaux triploïdes, on se propose au sein du CRH, qui est le centre de référence de l'UIT, c'est une organisation qui regroupe différents partenaires scientifiques en Normandie, notamment l'unité Boréa de l'Université de Caen, le centre technique du SMEL, deux centres de formation, et aussi, donc, il y a aussi les DPMA du Calvados et de la Manche qui participent à ce CRH. Et ce CRH a été mis en place pour pouvoir répondre aux attentes des professionnels. Et dans ce cadre, on réalise des études pour pouvoir répondre vraiment aux besoins des professionnels. Donc, dans le cadre du CRH, nous nous proposons de réaliser une étude qui s'appelle Dimorplo. Je vais vite vous présenter cette étude. Juste dans une diapo. Donc, cette étude va être réalisée donc, en partenariat avec l'université, le SMEL et le CRC Normandie. C'est pour voir justement étudier la dynamique et l'ampleur des mortalités des huîtres adultes, enfin des huîtres au cours d'un cycle d'élevage selon les modes de provenance, écloserie et captage naturel. Donc différents lots seront déposés sur différents sites. Pour répondre à deux questions, quel est l'effet de l'origine écloserie, captage et de l'haploïdie 2N, 3N sur la résistance des lots au cours du cycle d'élevage? Et on va aussi travailler sur l'influence de la gamétogenèse sur la survie des animaux. Et au préalable de cette étude, au laboratoire, nous avons donc observé la gamétogénèse par scarification et non par ponte sur des animaux triploïdes pour pouvoir commencer cette étude. On a travaillé sur 14 lots triploïdes analysés provenant de différentes écloseries, des animaux de 18 mois à 4 ans. On a observé systématiquement la présence de gamètes dans tous les lots avec un pourcentage de gamétogénèse supérieur à 50%. On a réalisé des fécondations par scarification, donc avec différents croisements, diplo-triplo et triplo-triplo. Et on observait systématiquement une fécondation, et on a obtenu, par contre, le but n'était pas de voir si ces larves pouvaient être vivantes, enfin, c'est comme disait Tristan, si elles étaient la stérilité, c'est de montrer qu'au fond, elles ne peuvent pas vivre. Donc là, ce n'était pas du tout le but de la manip. Donc, on a bloqué la manip au bout de 4 jours, donc on n'a pas pu voir si ces animaux pouvaient survivre. Et donc, on a obtenu différents stades de différenciation des trochophores des larves D.
Conclusion.
Conclusion. Donc, nous avons l'intention de recommencer cette manip, mais de pousser plus loin pour pouvoir voir justement si ces animaux sont viables ou pas viables.